Quelle a été votre réaction à l'écoute des textes de la première lecture, le livre d'Isaïe et de l'Évangile? Il y avait en Isaïe ce chant du bien-aimé qui se lamentait face aux mauvais fruits de la vigne, et dans l'Évangile, cette histoire des vignerons homicides qui ne veulent pas verser le produit de la vigne. Nous avions deux textes où une sanction est annoncée, deux textes de jugement. Quelle a été votre réaction à l'écoute de ces deux textes? Parce que ça dit quelque chose de notre tempérament. Si vous avez été parfaitement à l'aise en vous disant « c'est parfaitement normal cette sanction, ils ont dévié, ils doivent être punis, c'est juste », eh bien vous êtes d'un tempérament enclin à mettre les questions de justice à la première place. Il n'est pas question pour vous de mettre de côté la réalité de la justice, quitte à exclure le contrevenant. Si vous avez été un peu mal à l'aise à l'idée de l'abandon du soin de la vigne ou à l'idée du changement de peuple au profit d'un peuple qui portera ses fruits, vous êtes d'un tempérament enclin plutôt à mettre en avant l'importance du rassemblement entre les hommes, l'effort d'accorder à chacun une place, l'effort pour que chacun trouve une place, quitte à suspendre un instant la stricte justice et faire place à la miséricorde. Alors je vous laisse une seconde pour vous dire, ben tiens, de quel type de tempérament suis-je? Plutôt le premier ou plutôt le second? Alors il faut savoir que l'évangile de Jésus-Christ n'exclut aucun des deux tempéraments. Il n'exclut aucun des deux, il les combine. Il les combine, mais on trouvera cela dans des textes différents. On ne peut pas tout dire à la fois. Et donc, pour connaître ce que Jésus veut nous dire, nous devons intégrer à la fois les textes de jugement, comme ceux d'aujourd'hui, et les textes de miséricorde, comme celui de la brebis égarée, par exemple, où le berger laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher l'égaré jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur ce que nous apprennent les textes de jugement. Je ne prétends pas occulter les textes de miséricorde, mais leur méditation sera pour une autre fois. Que nous disent donc les textes de jugement? La première chose, on voit qu'il y a l'attente d'un fruit par le propriétaire de la vigne, qui représente Dieu. Eh bien, cette attente, elle est d'abord le rappel de notre capacité à porter du fruit. Il nous arrive parfois de douter ou d'oublier de notre capacité à porter du fruit, un bon fruit par le travail de notre vie. Alors vous me direz, quand on est doué, quand on est en pleine santé, cela semble assez aisé de le croire. Mais quand on est épuisé, quand on est malade, quand on est déprimé, est-ce que vraiment on peut porter du bon fruit? Lorsque on est encore à l'école, lorsqu'on a juste 6 ans, 8 ans, est-ce qu'on peut déjà porter un bon fruit? Le chant de la vigne en Isaïe insistait sur le fait que la vigne plantée était un bon plant. Le terrain avait été bien choisi, rendu propice, l'eau venait en suffisance, le contexte était bon. Et la bonté de ce contexte est vraie pour chaque être humain. La bonté de ce contexte est vraie pour chaque humain. Alors je ne dis pas que tous les contextes sont bons au sens d'aisé, facile, mais ils sont bons au sens d'accompagner de la grâce de Dieu et capables de produire un fruit. Je voudrais préciser la chose suivante. Même si nous nous sentons inutiles, capables de rien, nous avons alors la possibilité d'être témoins du Seigneur. En quoi? Au niveau de la gratuité de son amour. À mes yeux, je trouve que je n'avais rien pour moi. Et pourtant le Seigneur m'a aimé, il a donné sa vie pour moi. Eh bien mon témoignage, ce sera le contraste entre ma petitesse et le don de la vie du Christ. Ce contraste fait la révélation de la bonté de Dieu, de la gratuité de son amour. Et c'est une révélation essentielle. La Vierge Marie dans son Magnificat trouve sa joie dans le fait que le Seigneur s'est penché sur l'abaissement de sa servante. Elle ne fait pas sa joie de ce que Elle est pleine de grâce, qu'elle aurait des privilèges extraordinaires. Elle fait sa joie de ce que le Seigneur s'est penché sur sa petitesse. Et elle nous le révèle. Souvenons-nous que même dans la vie courante, le contraste est source de beauté. Pensez à ce que nous faisons parfois, un pull noir orné d'une petite broche dorée. Eh bien, nous pouvons porter un bon fruit par ce contraste que nous acceptons avec humilité entre notre petitesse et la gratuité de l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'en acceptant cela, en témoignant, je donnerai à d'autres la capacité aussi de découvrir que dans leur fragilité, dans leur apparemment inutilité, ils sont témoins de Dieu pour le monde. Ne serait-ce que par contraste, ils seront témoins révélateurs de cette gratuité de la bonté de Dieu. Les textes de jugement nous rappellent que Dieu attend un fruit de chacun de nous parce que nous sommes capables, avec sa grâce, de le produire. Et c'est là que vient le deuxième point que je voudrais souligner aujourd'hui, après ce rappel de la capacité à porter du fruit. Nous sommes appelés à produire ce fruit. Il y a un engagement de notre part qui est nécessaire et qui façonne notre vie éternelle. C'est-à-dire, si nous voulons aller au paradis, si nous voulons partager la vie de Dieu, nous devons, avec notre liberté, façonner quelque chose. La sanction qui est annoncée rappelle que nos actes ont des conséquences, et nous avons tendance à l'oublier ou à vouloir ne pas le voir. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait une plaisanterie qui était en vogue dans la population. « Quelles sont les clés du bonheur ?» demandait-on. Et la réponse était « être riche, libre et irresponsable ». Je voudrais insister sur le dernier point, irresponsable, parce que ça manifestait une société où l'on se préoccupait d'abord de savoir qui était coupable, avant de chercher à résoudre les difficultés. Du moment que j'avais un ordre écrit, j'étais couvert, même si l'ordre était objectivement et clairement absurde. Pas d'initiative surtout, parce que on me posera juste la question « qui est coupable ?» Être responsable, c'était trop dangereux. Or, face à Dieu, nous ne sommes pas face à un maître absurde dont le courroux frapperait ceux qui le vexent ou contreviennent à son caprice. Les sanctions que Dieu annonce ont un but pédagogique pour éviter un danger plus grand, un danger éternel. Et premièrement, les textes de jugement nous sont donnés à l'avance. Ils sont donc un appel pressant à la conversion. Ils manifestent qu'il est encore temps de le faire, mais que c'est maintenant qu'il faut le faire, que plus tard il ne sera plus temps de le faire. Oui, ces textes de jugement nous permettent, j'allais dire, de ne pas être pris en traître. Quelqu'un qui nous dirait tout d'un coup « Ah ben voilà, je te sanctionne », mais je dis « Mais j'étais pas au courant des règles, j'étais pas au courant de comment ça marchait ». Le Seigneur nous dit à l'avance comment cela fonctionne. Et puis deuxièmement, après cet avertissement donné à l'avance, les sanctions ne sont pas arbitraires. Qu'est-ce que c'est une sanction arbitraire? C'est un peu à la manière des jeux ou des sports. Vous voyez, si le joueur de football, à part le gardien, prend le ballon à la main, il est sanctionné. On a fixé ça comme règle du jeu. Mais ça, c'est arbitraire, hein. On pourrait fixer une autre règle. Donc si ça vous plaît pas, ben, vous ne jouez pas au football et vous allez jouer au rugby ou au basket. Là, vous pouvez prendre le ballon à la main. Mais on peut vivre sans cela. La règle est arbitraire. En revanche, les sanctions annoncées par le Seigneur ne sont pas arbitraires. Elles sont constitutives de la vie éternelle. Pourquoi ? Mais la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre que Dieu qui soit éternel. Et la vie de Dieu, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est communion d'amour. Et de pas n'importe quel amour, d'un amour qui se donne jusqu'au bout. La vie éternelle et donc participation, engagement dans cet élan de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Soit on s'y engage, et par la grâce de Dieu on sera élevé à cette puissance d'aimer, soit ça ne nous intéresse pas, et l'on aura ce que l'on a voulu, la séparation d'avec Dieu, ce qu'on appelle la damnation, ce qu'on appelle l'état de l'enfer. la damnation ou l'état de l'enfer, c'est un état que nous créons en refusant l'élan de l'amour de Dieu qui s'offre toujours à nous. Et parfois, on s'imagine que ce refus, c'est seulement l'acte des plus méchants d'entre nous, engoncés dans une sorte de sadisme pervers et impénitent. Ce refus commence en fait avec le refus d'aimer comme le Christ aime. Je n'ai pas envie. Oh, je trouve ça trop exigeant. Je ne veux pas me livrer pour toi. Je ne veux pas mettre ma puissance au service de ta vie, comme Jésus qui lava les pieds de ses disciples pour qu'ils aient part avec lui. Et nous voyons la facilité avec laquelle cela peut commencer. Je vois où est mon devoir d'État et je le fais pas. Je me rends compte que je suis en train de mentir et je continue de le faire sans détromper personne. Je gaspille en conscience les biens de la terre et je ne fais rien pour y remédier. C'est comme cela que je commence ce refus, à bâtir ce refus. Chaque acte de ce genre me dispose à ce refus. Et il y a un pli qui se prend, jusqu'à finir par raisonner comme les vignerons de la parabole, de façon totalement absurde. Tuons le fils, nous aurons l'héritage. Mais qui peut croire ça? Il y a un raisonnement qui s'est vicié profondément pour croire « je vais tuer le fils et j'aurai l'héritage ». Et bien petit à petit, par ces actes d'indifférence à l'amour, j'en arrive à un raisonnement qui devient absurde et qui peut avoir la même projection. Tuons le fils et l'héritage sera à nous. La sanction, en mettant une limite, en mettant une semonce, nous permet de sortir de la torpeur de l'habitude mauvaise, car cette habitude est réelle. J'allais dire, souvenons-nous de la première fois où nous avons menti. Si nous ne nous souvenons pas de ce moment-là, regardons les petits-enfants quand ils commencent à mentir. Parce qu'au départ, ils ne mentent pas. Les premières fois qu'ils mentent, ils deviennent tout rouges. Leur voix change, ils n'arrivent pas à poser leur voix, ils transpirent. Parce qu'ils sentent bien que, intérieurement, ils sont troublés d'enfreindre ainsi la vérité. Et comparons ce premier trouble, lorsque nous avions commencé à mentir, avec l'aplomb que l'on peut voir chez les adultes, qui finissent par mentir comme ils respirent. Il y a bien une habitude, un pli mauvais qui se prend. Ces textes de jugement, en évoquant les conséquences et les conséquences du coup éternel, nous permettent la conversion, nous permettent d'user des démarches de conversion que le Seigneur nous donne et nous donne maintenant. C'est le sacrement de la confession, mais c'est déjà chaque jour de faire le point par notre examen de conscience, parce que Dieu donne sa miséricorde à qui se tourne vers lui. C'est aussi le temps du rite pénitentiel au début de la messe. C'est si important de participer à toute la messe. Ce temps pénitentiel nous dispose à recueillir ce qui vient ensuite, il nous libère, il ouvre notre cœur, notre intelligence, notre mémoire, notre capacité même à la communion avec d'autres. Les autres prient pour moi lorsque l'on dit le « je confesse à Dieu », dans le lot, il y aura bien un saint dont la prière touchera le cœur de Dieu et pourra percer mes habitudes mauvaises. Et moi aussi, je prie pour eux. Ma présence, à ce moment-là, est importante. Ne laissons pas passer ce moment par négligence. Il y a toujours un coup où on sera en retard, mais ne laissons pas passer par négligence ce moment qui va nous disposer, pas seulement à accueillir la grâce que Dieu a préparée pour nous, mais à la conserver. C'est une expression que vous m'entendrez dire régulièrement, attention à ne pas être des passoires de la grâce. Dans une passoire, vous pouvez verser des litres et des litres d'eau. Il n'y aura juste que quelques gouttes qui resteront. Tout le reste sera passé par les trous. Dieu se donne de dimanche en dimanche, entièrement, pleinement, à chacun de ceux qui est là. Prenons garde de ne pas laisser filer cette plénitude de grâce que le Seigneur nous donne. Seigneur, en ce jour, où nous entendons deux textes de jugement. Donne-nous de les recevoir d'abord comme un rappel de notre capacité à porter du fruit, mais aussi comme l'invitation à exercer notre responsabilité pour aimer comme toi tu aimes. C'est ainsi que nous nous disposerons, avec ta grâce, à partager ta propre vie, la vie éternelle, en aimant comme toi tu aimes, avec ta grâce, en aimant comme toi tu aimes, en nous donnant comme toi tu te donnes, éternellement. Amen.